Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite.
Aung Sang-soo est un cinéaste à part à l'intérieur d'un cinéma coréen hanté par la violence, par une histoire déchirée, qu'on a pu voir dans Memory of Murder, le polar à succès, ou également dans les films de Im Sang-soo, à ne pas confondre donc, tels que le dernier et récent The President's Last Bang. Les films de Aung Sang-soo, au contraire, semblent intimes, délicats, presque européens, presque français. Une rue en noir et blanc, de la Vierge mise à nu par ses prétendants, son troisième film, et c'est Paris qui semble apparaître sous nos yeux. La Vierge mise à nu, ou l'histoire de So Young, la Vierge du titre, partagée entre deux hommes à qui elle se refuse. Partagée entre deux hommes, mais aussi entre deux parties, deux films, puisqu'au milieu, tout recommence pour un subtil jeu de variations et de répétitions. Le film plaît, et dans son sillage entraîne la sortie en France de ses deux précédents films, Le jour où le cochon est tombé dans le puits, un autre triangle amoureux, où une femme aime un écrivain qui aime une femme mariée, Cruauté de l'impossibilité de l'amour encore, qui sera cette fois plus sanglant, et Le pouvoir de la province de Kangyong, un voyage lancinant et double là encore, la violence de la rupture, de la mort aussi, et hors champ dans les films de Aung Sang-soo. Ce qu'il montre, les atermoiements sentimentaux, la difficulté des relations humaines, la solitude aussi. Il n'y a pas plus seul que l'anti-héros de son film suivant, Turning Gate, peut-être son œuvre la plus ouverte. Un acteur raté, poursuivi d'abord par une femme qui, elle, l'aime, court, dans un deuxième temps bien sûr, après une femme qu'il ne l'aimera, elle, pas bien longtemps. Film drôle et cruel qui ouvre une collaboration avec la production française et annonce son film suivant, La femme et l'avenir de l'homme, là encore un film sur l'amitié entre deux hommes et une femme au milieu. Comte de cinéma est son nouveau film. Cette fois, la construction est à la fois plus simple et plus complexe. Premier temps, un étudiant décide de se suicider avec une jeune fille. Deuxième temps, un homme sort du cinéma. La première partie était donc un moyen-métrage réalisé par un de ses amis, dont il prétend être l'inspiration. Complexité supplémentaire, il se met à suivre l'actrice du film et à avoir une histoire avec elle. Subtil jeu de répétition entre le film dans le film et le réel du héros, mais au-delà de l'aspect ludique et cérébral du cinéma de Aung Sang-soo, ce cinéma est avant tout concret, physique, sexuel même. On y boit, on y vomit, on y tache les draps de sang. Comte de cinéma est le sixième film de cet auteur inclassable. Nous avons décidé de lui consacrer un hors-champ qui ressemble à ses films, puisqu'il y aura des titres de chapitres, plus ou moins ironiques, et des jeux de langage, puisque nous l'avons interviewé plusieurs fois, en coréen et en anglais. C'est hors champ et vous êtes sur Radio Campus Paris.
안녕하세요. 여기서 만나네요.
예, 안녕하세요.
아, 저분들하고
chapitre
같이 오신 모양이죠?
La rencontre.
예.
Aung Sang-soo, dans Comte de cinéma, comme dans tous vos films, au début, il y a la rencontre entre un jeune homme et une jeune femme, qui va là se doubler en plus, puisque au milieu du film, le deuxième homme sort du cinéma et rencontre l'actrice. Est-ce qu'au départ de vos films, il y a cette idée de rencontre, ces détails du quotidien, comme dans la scène qu'on vient d'écouter de La Vierge mise à nu par ses prétendants, où la jeune femme a trouvé un gant du jeune homme? Ou est-ce que vous partez plutôt de l'idée de la structure un peu conceptuelle, d'opposition entre les deux parties?
For me, I always start with, I think, this very small situation, ordinary.
Je commence toujours
everyday type of situation.
Par une situation
For
très
instance,
simple,
this,
très quotidienne.
This film, it was, man,
par exemple, dans ce film, il s'agissait d'un homme qui sort du cinéma.
His, under the influence of the movie he just
On le suit, il est encore imprégné du film qu'il vient de voir. C'est la situation qui m'a intéressé. Au départ, je ne sais pas toujours pourquoi cette situation m'intéresse, mais je sens que si je la creuse, j'aboutirai à quelque chose. C'est quelque chose de très intuitif.
in every movie I make. And I, if I choose this, then one by one or certain.
Donc je pars toujours de ce type de situation quotidienne dans chaque film que je fais. Et puis petit à petit, les fragments de, du paysage quotidien se combinent et je les rassemble.
While I collect them, then one day I come up with a structure.
Et puis à force de les collecter, un jour j'aboutis à une structure. Parfois c'est très rapide, je trouve la structure en une semaine. Parfois ça prend un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Puis une fois que j'ai la structure, les détails me parviennent plus rapidement.
Chapitre 2, la structure. Dans tous vos autres films, les personnages ne sont pas conscients de la répétition et du jeu qui se fait donc un peu contre eux. Par exemple, dans La Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est le narrateur qui décide d'arrêter le film et de le recommencer au début par une... Il y a une scène en commun et on donne un autre possible. Ici, le personnage sort du cinéma et est capable de réfléchir dans toute la deuxième partie sur ce qu'il a vu. Il accuse même le réalisateur d'avoir recopié son histoire avec des tout petits détails comme les cigarettes avant l'organisation d'un suicide, des choses comme ça.
C'est vrai que dans mes autres films, les personnages ne sont pas conscients de ce genre de processus de répétition, de mise en abîme. Et cette fois-ci, ils le sont. Mais l'important, c'est que le film ne dit pas s'ils sont vraiment, en fait, s'ils disent la vérité. C'est-à-dire que le personnage, par exemple, dit que c'était sa propre histoire. Mais à travers ce que l'actrice répond et aussi la suite du film, le spectateur n'est pas tout à fait sûr que c'est vraiment son histoire à lui.
Le sens dans vos films est assez flottant. Il n'y a jamais de réponse. On pose beaucoup de questions. Mais on reste incertain, les personnages sont peut-être menteurs. Et les blocs de films comme des pièces d'un puzzle, mais qui ne vont pas forcément ensemble. Il y a une vraie dialectique finalement, puisque le spectateur doute beaucoup devant vos films.
Ok, for example, director A, think of some material.
Certains réalisateurs peuvent penser à un sujet, un thème.
And right away, he searches for the meaning.
Et dès le départ, ce réalisateur va chercher le sens, l'intention, ce qui laisse très peu de place pour la découverte à partir de là. En regardant son film, le public trouvera très rapidement ce qu'il essaye de dire. Mais j'essaye de faire les choses différemment. J'essaye de ne pas avoir un message très clair, et j'essaye de repousser au maximum ce moment le plus loin possible. Sinon, c'est très facile d'exprimer son intention, la raison pour laquelle on fait les choses. Et si on décide d'un sujet et qu'on l'exprime dès le départ, tout ce qui suit ne sera que l'exécution de cette intention, et puis on va chercher volontairement des situations qui vont venir confirmer cette ligne de pensée, cette intention. Et le public pourra prévoir très rapidement la suite. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire quelque chose qui est, au moins en apparence, plus proche de la vie. Bien sûr, le film n'est pas la vie. La vie est bien plus complexe.
Chapitre 3, la morale. On ne peut pas vraiment dire non plus que vos films n'ont pas de sens, qu'elles ne transmettent pas une certaine idée de la vie, justement. À la fin de Contes de cinéma, votre personnage principal nous dit en voix off qu'il a décidé de vivre. Alors que dans la première partie du film, on a vu sa représentation qui essayait de se suicider. Et dans la deuxième, il a également encore essayé de se suicider. Donc il y a déjà un progrès et peut-être même une critique du personnage. D'autant plus que ce qui est aussi mis en cause, c'est son rapport au film et à la projection, et donc que nous, spectateurs, on est en mesure de tirer une leçon,
une véritable morale de votre film Aung San Suu. Pourquoi est-ce que vous faites du cinéma ? Est-ce que vous êtes un moraliste ? Est-ce que c'est pour transmettre cette idée de morale ?
When I think about why I do this filmmaking, except my own pleasure, just pure pleasure of making film, except that I.
Lorsque je me pose la question de savoir pourquoi je fais des films, mis à part le plaisir pur que je retire à faire des films, c'est surtout la question. Je me rends compte que l'on souffre énormément. Alors que les raisons réelles pour une telle souffrance n'existent pas. Cette souffrance énorme provient essentiellement de l'illusion, notre croyance erronée, alors que si on avait un regard plus juste sur la réalité, je pense que notre souffrance sera réduite d'autant. En essayant de montrer l'absurdité de cette croyance commune, cette idéologie, donc par exemple un spectateur du film, il sera vraisemblablement soumis à cette pression de la mentalité, de la croyance collective et donc il vit sa vie quotidienne sous l'influence de cette pression. Et de temps en temps, il va quand même se poser la question qu'il y a une raison valable pour cette souffrance. Donc il ne peut pas vraiment s'opposer à ses amis et leur dire que leurs croyances n'ont aucun fondement, il est trop faible. Mais si quelqu'un fait un film ou écrit un roman ou une nouvelle qui reprenne ses interrogations, le fait de les voir sur grand écran pourrait l'encourager à poursuivre cette remise en question.
Là où ça se complique également, c'est que tous les personnages de votre film sont des spectateurs, puisque l'actrice s'est vue dans la première partie en train de jouer un personnage, mais également que le jeune homme à l'intérieur du film, dans le film, est allé voir une pièce de théâtre sur la mer et que ça va lui permettre de régler ses problèmes.
Oui, dans la première partie, le jeune homme donc, rencontre tout à fait par hasard une femme, une jeune fille qu'il a connue autrefois. Il lui donne rendez-vous, mais il n'est pas encore sûr qu'il va la retrouver. En tout cas, pour faire passer le temps, il va voir donc, une pièce de théâtre. C'est la première fois qu'il voit une pièce de théâtre. C'est une pièce qui parle d'une mère qui est très dévouée, mais enfin une figure maternelle assez classique finalement. Et ce jeune homme de 19 ans a une espèce de déclic en voyant cette pièce. Et vers la fin de la première partie, on se rend compte que il avait quelque chose une sorte de frustration en fait depuis longtemps dans ses rapports avec sa mère et donc ce déclic qu'il a eu en voyant la pièce de théâtre inconsciemment donc l'amène à sortir un petit peu du chemin du droit chemin en fait de penser à la mort ou à faire un 400 coups quoi. Et donc sous prétexte de ce déclic, en fait, il arrive à provoquer quelque chose qui va par la suite l'amener à affronter sa mère. Et donc la première partie est conçue en sorte que les spectateurs puissent comprendre que c'est l'inconscient du garçon qui l'amène à ce genre d'action. Donc, ça pourrait être intitulé une histoire sur le cinéma ou sur le théâtre, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs sens dans le titre coréen. Je ne sais pas si. Le titre coréen veut dire plusieurs choses. C'est Geukjangjeon. Les deux premières syllabes signifient le cinéma ou le théâtre comme lieu. La dernière syllabe, Jeon, ça peut vouloir dire une histoire ou devant ou avant. Donc la première partie, ça pourrait être, disons, traduit une histoire sur le cinéma. la deuxième partie devant le cinéma, parce que le type...
Chapitre 4, l'ironie. Dans cette scène de Turning Gate, le personnage principal, acteur, apprend, c'est le tout début du film, par le réalisateur à l'autre bout du fil et qu'on ne verra pas, qu'il n'aura pas le rôle principal promis dans son prochain film et qu'on lui impute l'échec du film précédent. Le réalisateur s'excuse, explique que c'est le choix des producteurs et que lui aurait voulu le prendre. Cette scène est un modèle des scènes à la Aung San Suu. Dans un premier temps, l'acteur acquiesce, dit que le réalisateur a raison. Puis le réalisateur en fait trop, l'acteur s'énerve, et enfin l'acteur se calme aussi vite qu'il s'était énervé. C'est la photographie d'un état d'âme, assez ironique ici, puisque le final de la scène est une petite chute qu'affectionne particulièrement Aung San Suu, une chute donc ironique. L'acteur demande s'il peut se raser du coup, ce qui montrait en même temps tout son espoir d'avoir le rôle, alors qu'au début de la scène il dit qu'il n'y comptait pas tant que ça. Toutes les scènes d'Aung San Suu sont construites sur ce système de 9 dixièmes de la scène qui nous vont vers un point et le dernier dixième qui fait exploser les 9 premiers. La structure participe réellement à l'ironie puisqu'elle permet une mise en doute et en particulier dans Contes de cinéma. Du coup, toute la première partie qui a un côté un peu roman photo et fleur bleue est rendue ironique par la seconde puisque c'est un film dans le film et que la seconde la met est beaucoup plus dure et la met complètement à mal.
어떤 요소들이나 어떤 것들은 그냥 순한 것.
En fait, il y a deux façons de voir mon film. C'est que premièrement, bon, on peut voir le film tel qu'il est, on peut avoir des sentiments, s'identifier au personnage, tout simplement. Ou alors on peut se demander est-ce que là il faut vraiment se comporter comme ça ou des choses comme ça. Donc ces deux-là, enfin tantôt c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui correspondent plutôt à la première catégorie, il y a d'autres éléments plutôt à la deuxième catégorie, et quelquefois c'est même en même temps les deux. Par exemple, dans la première partie, on voit le jeune homme prendre le médicament donc pour mourir. Le zoom que j'utilise à ce moment-là est fait en fait premièrement pour que le, enfin permet en tout cas au spectateur de s'identifier au personnage. Mais en même temps, il y a la vitesse de zoom est telle que on ne s'identifie pas tellement en fait. Au contraire, en fait, ça empêche en quelque sorte ce transfert des émotions. Ou alors, il y a aussi, on peut parler des contradictions dans les comportements du même personnage qui, effectivement, nous permettent de se poser ce genre de questions.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est Hors Champ, spécial consacré à Aung San Suu, ce cinéaste coréen donc, qui vient de réaliser Contes de cinéma sur vos écrans. Mais il y a également des films en DVD, les 3 premiers films sont en coffret chez TF1 Vidéo, et Turning Gate et La Femme et l'Avenir de l'Homme sont en coffret chez MK2. Dans les bonus de ces derniers d'ailleurs, on peut entendre la réalisatrice Claire Denis qui parle du cinéaste.
Il n'y a pas une hiérarchie des choses qu'on doit montrer dans une scène. Tout est exactement traité de la même manière. C'est ça qui en fait la brutalité pour moi. J'ai toujours l'impression que le surlignage, pour moi, c'est la façon qu'a un film de compatir, de avec emphase sur des personnages, et c'est-à-dire une façon de traiter la psychologie des personnages. Or, dans les films, donc sans doute, tout est visible, tout est dit, tout est... Tout... Il n'a rien oublié, on peut dire. Tout est là. Mais c'est un peu comme dans un rébus, il faut attraper très vite tout ce que le film donne, ou le revoir une deuxième fois, parce que tout est visible dans ces films. Mais d'une façon, je ne veux pas dire subtile, parce que tout, soudain, on aurait l'air de dire que c'est des films difficiles. Ou non. C'est des films assez brutaux, donc qui ne sont pas compatissants. Voilà, c'est ça.
C'est un film. Et puis pourquoi dans le coin, alors ?
Chapitre 5, le sexe.
Désolé, je tiens d'ailleurs. Sinon, celui-là dort, j'ai pas l'air. Tu vois rien?
Mais... Non, tu vois rien.
Pas compatissant, effectivement, en particulier sur le sexe. Kong Sang-soo montre de façon non pas crue, mais de façon toujours identique, toujours la même position, dit-il, pour ne pas que le spectateur pense à autre chose. Et effectivement, dans ces scènes de sexe, on ne pense pas au désir ou à ce qu'on pense devant des scènes de sexe par d'autres réalisateurs. Elles ont toutes un but très particulier, c'est l'échec. Ou bien c'est un homme qui force une femme, ou bien c'est un homme qui jouit trop vite ou qui n'arrive pas à bander, comme dans Contes de cinéma. Les hommes qui n'arrivent pas à bander demandent d'ailleurs toujours à la femme de mourir avec eux pur. Encore une fois, un effet d'ironie d'homme impuissant. Ici, c'est une scène de La femme et l'avenir de l'homme, où la femme demande la permission à l'homme de gémir. L'homme, fou de joie, lui dit bien sûr. Et là, il y a une vision du sourire mâle, content de lui-même, assez formidable. D'autant plus que l'homme, tellement heureux, jouit très vite, et que la femme termine la scène par cette réplique assez cruelle. Vous êtes toujours comme ça.
Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans mettre de bruit. La mer est passée le sable.
Chapitre 6, les acteurs.
Des amants.
Hong Sang-soo, on ne peut pas parler de votre cinéma sans parler des acteurs qui sont toujours très impressionnants, qui ont un jeu très réaliste, très uni de film en film. On a l'impression que vous prenez le même type de personnes, vous leur imposez un même jeu. D'autant plus qu'ils sont souvent regardés pendant de très longtemps, puisque vous utilisez des plans séquences. Donc c'est un jeu sans doute extrêmement précis. Est-ce que vous avez une méthode qui est très pensée, ou est-ce que c'est encore très intuitif ?
Je n'ai pas vraiment réfléchi sur ce que doit être un jeu des acteurs. Mais quand j'ai tourné mon premier long métrage, donc le jour où le cochon est tombé dans le puits, c'est venu tout naturellement, et je me suis rendu compte que c'était effectivement ma méthode. On peut effectivement réfléchir énormément sur la façon de diriger les acteurs, et on peut apprendre beaucoup de choses comme ça. Mais dans mon cas, il s'agit surtout d'une rencontre entre moi, le cinéaste, et puis l'acteur, en fait. Et c'est ce qui est en moi-même, en fait, au départ en tant que cinéaste qui effectivement décide ma façon de diriger l'acteur, ma façon de convaincre les acteurs. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on peut tirer des capacités d'un acteur.
Dans cette scène très remarquable de La femme et l'avenir de l'homme, on assiste à une dispute éthylique entre la jeune femme et son ancien amant qui est parti. La position de la caméra est assez particulière puisqu'ils sont tous les deux de profil et au centre est l'ami qui est resté et qui a profité de l'absence de son meilleur ami pour profiter de la jeune fille pour le coup. On devine dans cette scène que les acteurs ont bu, ils ont Est-ce que c'est une part de manipulation? Parce qu'il y a aussi ça dans Conte de cinéma et dans Turning Head, dans tous vos films.
Donc souvent, il y a un conflit entre les relations purement humaines, sans arrière-pensée, et puis c'est ce qu'on pourrait appeler un calcul qui m'oblige à le mener à un objectif. Mais si on je pense que c'est dégueulasse d'avoir un calcul comme ça, je n'arrive pas à mon objectif. C'est là qu'intervient un sens de la responsabilité, je crois, qui me permet de le mener à bien, vraiment, à mon objectif, même si ce n'est pas très naturel.
Chapitre 7, la répétition. Hong Song-soo, on en a parlé un petit peu de la répétition. Elle est au cœur de tous vos projets, Conte de cinéma, donc avec le film dans le film et le personnage qui croit être le héros du film. Mais elle se joue à des détails souvent microscopiques et assez jouissifs, notamment dans La Vierge mise à nu par ses prétendants, où là les deux parties étaient en opposition avec des détails notamment sur les gants, des petits détails physiques ou des choses comme ça. Et là, dans Conte de cinéma, on en a également des détails très importants. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le détail des tétons. Lors d'une scène d'amour, le héros, donc dans le film de la première partie, fait mal aux tétons de la jeune fille. Elle dit « Arrête, tu me fais mal ». Et dans la deuxième partie, c'est la femme qui touche les tétons de l'homme et dit « Arrête, tu me fais mal ». C'est le genre de répétition inconsciente et il y en a énormément dans tous vos films, peut-être moins dans Conte de cinéma. Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec vos personnages, vos histoires, de vous répéter, vous, en tant que cinéaste, de faire un petit peu toujours le même film ?
Tout d'abord, je ne pense pas me répéter. Il y a effectivement des éléments qui se répètent, mais globalement, je n'ai pas le sentiment de me répéter. Il y a toujours des éléments nouveaux. Toujours des nouvelles choses qui attisent ma curiosité, et c'est pour cela que je fais des films.
Vous changez d'ailleurs de style de film en film, Aung San Suu, de façon assez importante, puisque La Vierge mise à nu était en noir et blanc, La province de Kangyang avait énormément de vues, de plans en plongée, les personnages étaient assez écrasés, coupés étrangement. Dans Compte de cinéma, vous utilisez le zoom et la voix off que vous n'avez jamais utilisé. On dirait qu'à chaque film, il y a une expérimentation technique supplémentaire.
Responding to what you did, and this child who is.
C'est un petit peu comme un enfant qui réagit à ce que vous faites, qui trouve quelque chose de très curieux. Lorsque quelque chose m'intéresse, attire ma curiosité, je ne sais pas forcément pourquoi, mais je sais que je suis suffisamment curieux pour vouloir creuser la chose. Alors si on me demande pourquoi tel ou tel élément se trouve là, ou quelle était mon intention concrète, je pourrais dire quelque chose, mais en réalité, j'aurais déjà changé certaines choses pour éviter d'en figer le sens.
Vous avez étudié dans des écoles de cinéma et d'art aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Parce que vous avez commencé par des films expérimentaux, que vous aviez du mal à écrire vos premiers films. Mais est-ce qu'il y a encore une trace de ce cinéma expérimental que vous faisiez jadis dans vos films actuels?
Au départ, j'ai pensé à un film très narratif. J'ai écrit un scénario et je me suis arrêtée. Parce que le sujet était un événement qui m'était arrivé à moi-même. Je me suis arrêtée parce que, en fait, entre cet événement et le moi qui était en train de l'écrire, en fait, la distance était un peu trop courte. Donc, j'étais pas encore en mesure d'en sortir une œuvre, de trouver une forme pour l'exprimer. Donc, je me suis enfuie en quelque sorte, toujours avec ce désir d'exprimer quelque chose de façon, disons, artistique. C'est comme ça que j'ai réalisé un film, comme on dit, expérimental. J'ai commencé en fait le film non pas avec un schéma d'un film de genre, mais en réfléchissant sur le matériel de base du cinéma. C'est comment filmer avec une caméra, tout simplement. Donc je suis partie de cette idée très simple, et donc j'ai fait plusieurs films. Par la suite, en faisant des films plus longs, je me suis rendu compte que finalement j'ai gardé pas mal des éléments que j'avais déjà quand j'étais étudiant.
근데 그게 정말 좋은 저의 기준이 아닌가 하는 생각이 들어.
그래, 너 결혼 잘했어. 재수 씨 하나 잘 만났어, 나 임마.
형, 응? 형 또 다음에 집사람 만나서 껴안고 그러면 진짜 씨발 확.
무슨 소리야?
아 씨발 우리 전에 미국 갔을 때 형 그랬잖아. 헤어질 때 미국에 껴안고 그랬잖아.
Le langage. La parole est réellement au centre de vos films, puisque c'est ça que vous filmez. En fait, dans les plans séquences, les personnages sont la plupart du temps face à face, ils se parlent, il y a extrêmement peu d'action et d'actes, et même dans les actes sexuels, vous filmez la parole. Dans la scène qu'on vient d'entendre de La femme et l'avenir de l'homme, les deux amis se disputent à propos d'une femme que l'un a serrée dans ses bras et qui est la femme de l'autre. La dispute est dérisoire autour d'un mot, le hug anglais, l'homme a tenu dans ses bras la femme. Les dialogues sont extrêmement précis dans vos films. Comment est-ce que vous écrivez vos dialogues ?
Oui, en général, on commence le tournage le matin, on tourne entre 3 et 5 scènes dans la journée, et j'écris les dialogues le matin même. Évidemment, il y a des choses qui sont déjà écrites dans, et qui sont comprises dans le traitement. C'est-à-dire que le traitement est une série de scènes, en fait, numérotées. Certaines scènes contiennent des dialogues et d'autres pas. Donc le matin, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une méthode, mais j'arrive le matin au lieu de tournage, je regarde un peu comment ça se passe et je m'enferme dans une pièce ou dans un petit café, genre une demi-heure ou une heure, et je me concentre vraiment sur les dialogues, et c'est là que je les écris, en fait, vraiment. Et en fait, les idées viennent des choses assez, assez diverses, en fait. Même quelquefois, je trouve l'inspiration dans ce que j'ai entendu le matin à la radio en venant au lieu.
Le langage est extrêmement trompeur dans vos films. En tout cas, vous le montrez comme tel. Dans La Vierge mise à nu par ses prétendants, un jeune homme se trompe de prénom pour une jeune fille, ce qui va mener à un mini-drame. C'est aussi que les personnages ont beaucoup de mauvaise foi et le langage ne cesse de les trahir.
Je pense que les paroles sont un peu trop faciles par rapport aux actions, par rapport à l'existence même. Pour moi, les paroles sont vraiment des facilités. C'est qu'il y a des paroles qui viennent à l'esprit comme ça et quelquefois qui influencent aussi sur le mode de pensée. Et donc, chacun a son image de soi et en même temps, une image de soi qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il est vraiment, en fait. En montrant ce qu'il dit et en montrant aussi ce qu'il est, on peut... En montrant ces deux-là en même temps, on peut mettre en évidence ce décalage.
De toute façon, à cette époque, Sud ou Nord, je m'en foutais, j'étais prête à suivre partout. Jamais j'aurais pensé que je pouvais me tromper sur mon adresse. Ça, faut le faire. Tu vois ma connerie?
Tu ne savais même pas où tu habitais?
Mais si, mais j'ai pris un mot pour un autre. Tu sais bien, ça m'arrive souvent. Comment ça s'appelle déjà?
Un lapsus.
Ouais, voilà, c'est ça, un lapsus. Je voulais dire Levallois et j'ai dit Courbevoie. Pourquoi? C'est comme ça.
Ah, tu crois?
Ouais. Je m'en suis aperçue 6 mois après. Quand j'ai rempli les papiers pour la maternité, j'ai refait le même lapsus. C'est là que j'ai compris que je m'étais trompée quand je lui avais laissé mon adresse.
Avant de découvrir tout ça, tu as dû penser
qu'il t'avait oublié. Chapitre 9, l'influence européenne.
J'ai plutôt pensé qu'il était mort.
Et non, vous ne rêvez pas, vous êtes toujours dans Hors Champ sur Radio Campus Paris avec Hong Sang-soo. Et vous venez d'entendre un extrait de Contes d'hiver, un film qu'on aime bien ici, puisqu'on a fait un Hors Champ sur les films des 4 saisons d'Éric Rohmer. Éric Rohmer, le maître du langage et du lapsus. Puis votre film s'appelle Contes de cinéma et on pense aux contes moraux. On ne peut pas ne pas penser à Éric Rohmer, mais également à Eustache, dans une certaine façon de filmer les rues. Donc à la Nouvelle Vague aussi, la façon de filmer la ville, les personnages dans des cadres précis, dans la façon de les faire parler, et puis dans le type de personnage aussi, on a l'impression de reconnaître des personnages un peu européens des années 60. Est-ce que vous avez été réellement influencé par les films français en particulier?
I have many directors I like. Many of them are French or either French or they're educated or active in France.
Il y a beaucoup de réalisateurs que j'apprécie et beaucoup d'entre eux sont français ou ont étudié en France ou sont actifs en France. C'est pour cela que je suis venu en France à l'âge de 30 ans et j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait d'habiter ici. Quand vous parlez de la méthode française de faire des films, je pense qu'il n'y a qu'un certain nombre limité de façons de faire des films. Pour être tout à fait réaliste, on combine parfois 2 ou 3 méthodes et on en fait quelque chose de nouveau. Et puis j'ai étudié le cinéma dans une école, j'ai vu beaucoup de films, dont un certain nombre venaient de réalisateurs français. Et franchement, vous devriez être fiers. Vous avez trouvé énormément de choses. Des choses que les gens de par le monde peuvent essayer, expérimenter, mais il ne s'agit pas juste de suivre ou d'imiter fidèlement une méthode, mais c'est plutôt de s'en servir pour se stimuler et trouver une nouvelle combinaison. Et donc, bien que j'admire énormément certains réalisateurs, si j'essayais de suivre à la lettre leur méthode, ça ne fonctionnerait pas nécessairement pour moi. Donc, il faut toujours combiner les méthodes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'imagination qui ne se baserait sur rien. La découverte s'alimente nécessairement de choses existantes. On ne peut pas imaginer à partir de rien. Il y a toujours des éléments existants que l'on réorganise, que l'on réarrange. Et je crois que c'est la clé de l'imagination.
Chapitre 10, la Corée. On ne peut pas vraiment dire que vos films soient historiques, surtout, donc, comme je le disais au début, en comparaison avec les films de vos contemporains qui se tournent directement vers des événements politiques, l'assassinat d'un président ou des choses comme ça, sans parler même des films de Ink Contact, ce cinéaste coréen qui a fait 100 films, dont on a pu voir les films sont souvent des drames ou des tragédies historiques. Vos films parlent des Coréens, donc ils parlent de la société, notamment le lien avec l'argent, puisque Conte de cinéma commence par un héros qui se fait prêter de l'argent par son frère, et dans la deuxième partie, le héros de la deuxième partie donc, se fait prêter de l'argent par la jeune fille. Il y a un échange comme ça autour de l'économie assez étrange. Vos films parlent de l'histoire et de la société, mais d'une autre façon. On parle à travers les passions des personnages, et on a un portrait des Coréens d'une grande tristesse et en même temps avec une force c'est une énergie particulière.
Pour our recent history, there in many catastrophic.
L'histoire récente de la Corée a été remplie de catastrophes. Tout d'abord, nous avons été colonisés par le Japon pendant 36 ans. À peine libérés, nous sommes rentrés en guerre, la guerre de Corée, qui a tout détruit. Et puis après la guerre, nous avons eu une dictature. Donc au final, ça n'a pas été des périodes faciles pour nous. Donc les Coréens n'ont pas vraiment eu le temps de devenir conscients de leurs droits, des droits de l'homme. Mais à mon avis, les Coréens sont très endurants, très résistants. Et donc même dans ces périodes difficiles, ils ont toujours essayé de travailler dur, gagner leur vie, se développer. Et donc dans ce pays, par rapport à d'autres pays, on s'est développé vraiment très rapidement sur le plan économique. Et aujourd'hui, ce que l'on a n'est pas comparable avec la situation il y a 50 ans. Mais sur le plan culturel, il y a eu comme une rupture totale par rapport au passé, un déracinement. Pour faire simple, je pense que nous sommes dans une phase de transition durant laquelle nous essayons de retrouver ce que nous avions. Nous avons accompli un développement économique important, ce qui nous permet maintenant de pouvoir nous consacrer au développement culturel. Donc, mon sentiment actuel de ce à quoi ressemble le paysage culturel en Corée, c'est quelque chose de très divers, de très mélangé, avec finalement très peu d'éléments sur lesquels le peuple coréen peut se retrouver, trouver des références communes. Chacun vit vraiment dans une culture qui lui est propre. D'un côté, les bouddhistes, de l'autre côté, les chrétiens, les matérialistes. Et à cause de cette histoire récente, nous avons perdu un peu ce dénominateur commun qui, pour moi, est quelque chose d'essentiel dans une société. Donc c'est une période très difficile, mais je pense que grâce à notre développement économique, nous avons un peu plus de temps maintenant, et probablement dans les années à venir, dans peut-être 10 ans, les Coréens pourront peut-être se retrouver sur un terrain commun et faire des choses ensemble. C'est ce que j'espère en tout cas. Thank you.
Chapitre 11. La ville, la solitude. L'univers que montrent les films d'Aung San-soo est extrêmement urbain. Et pourtant, dans tous ces films, quasiment, il y a un passage par la province, notamment dans la province de Gangneung. C'est un lieu magique où on peut sortir de la ville. Dans la Vierge mise à nu, c'est l'endroit où on va pouvoir peut-être enfin dépuceler la jeune fille. Il y a donc une véritable valeur initiatique. C'est un parcours à l'extérieur de la ville. Conte de cinéma est quasiment et exclusivement même dans la ville. C'est son film le plus urbain, où il y a de nombreux petits panoramiques qui balayent les rues, on suit des personnages. Il n'y a pas d'échappatoire, si ce n'est peut-être la salle de cinéma elle-même, puisque la première partie du film est en quelque sorte une île. C'est l'endroit magique où les personnages peuvent projeter leurs désirs, ce qui était le cas de la province. Et là, c'est le cinéma, c'est donc la chambre noire. L'univers très très urbain de Aung San-soo trouve par exemple dans la voiture, dans l'utilisation des taxis, des téléphones, quelque chose de totalement moderne et très touchant, notamment une très belle scène dans Turning Gate où les deux personnages sont dans la voiture avec la jeune femme. La jeune femme sort, laisse la portière ouverte et dit au jeune homme qu'elle vient rencontrer « suis-moi ». Et le jeune homme qui conduit à l'avant, évidemment, n'est pas filmé. Là, on reste sur le plan séquence de la portière. Donc le jeune homme, on devine toute sa fureur. Et au moment où le jeune homme invité sort et où il ferme la portière, ce qui dure quand même assez longtemps, la voiture part en trombe. Et ce mouvement de la colère dans la ville de la voiture est vraiment quelque chose, par le bruit, par l'image, de très très fort. D'autant plus donc que la scène dure assez longtemps, et donc pendant assez longtemps, le jeune homme et la jeune fille discutent dehors, la portière ouverte, alors que l'autre attend. Il y a quelque chose de, encore une fois, très ironique dans l'utilisation des signes de la modernité, de la ville, et c'est cette chorée-là qui est donnée à voir. On va écouter encore Claire Denis, toujours dans le bonus justement de Turning Gate, qui nous parle de ce rapport à la ville et au cadre.
Même devant une église, on la voit pas vraiment. C'est un carrefour. Devant un hôpital, c'est un carrefour. Les villes sont des lieux où les gens sont cadrés à l'intérieur d'un taxi, d'une chambre d'hôtel, d'un appartement, d'un train. Il y a toujours une fenêtre d'un café, de restaurant où on se bourre la gueule. Enfin, je sais pas. Il y a toujours une forme de... Il n'y a jamais un endroit où les personnages peuvent s'échapper de cette structure-là, quoi, qui est presque la prison de leur vie.
Thank you.
Chapitre 12. La musique de l'humour. La musique est à la fois référence, on peut penser à Alain Resnais dans certaines mélodies, à Romer encore une fois, mais elle est aussi humoristique. Par exemple, là, on entend les pas du personnage principal qui, dans la scène qui va suivre, le personnage principal de La femme et l'avenir de l'homme, qui, dans la scène qui va suivre, va rencontrer la jeune fille qui a changé de coupe de cheveux. Il va malencontreusement lui faire remarquer. Elle va lui dire « Vous êtes bouffie ». Et c'est cette musique qui nous fait entendre la lourdeur physique, selon la jeune fille, mais surtout morale, de l'homme. Évidemment, cette séquence est d'autant plus ironique que la suivante est celle qu'on a écoutée tout à l'heure, la scène de sexe un peu ratée, c'est le moins qu'on puisse dire. La musique est donc un contrepoint humoristique assez souvent aux scènes et vient ajouter à cette ambiance de ville un peu triste, à cette ambiance de pluie notamment, quelque chose de beaucoup plus léger. C'est l'opposition entre le léger et le lourd, entre le son et l'image.
어제 일 잘 보셨어요?
네. 앉으세요.
얼굴이 왜 그렇게 부었어요?
그래요?
네. 너무 많이 부었어요. 어디 안 좋으세요?
아닌데요. 머리를 어떻게 했네요?
안 예쁘죠?
Toutes les musiques que nous avons écoutées pendant l'émission viennent des films de Hong Sang-soo, qui sont profondément des films musicaux, mais d'une musicalité qui tient à l'humour, mais aussi à son double inversé, son revers, force nécessairement la mélancolie. Car l'humour d'Hong Sang-soo est un humour un peu désespéré, un humour parfois de vaudeville. Lorsque dans La femme et l'avenir de l'homme, un homme fait l'amour avec une femme alors que le petit ami de cette femme est dans la pièce d'à côté et qu'il entend tout. Un humour parfois burlesque, avec ses corps maladroits, larges. Et un humour aussi un peu gênant, qui travaille sur l'humiliation, notamment à la fin de Turning Head, la dernière partie concerne un professeur qui a une aventure avec une de ses élèves et un autre élève les surprend. Donc il a peur pour sa réputation, alors qu'il n'a pourtant encore rien fait puisqu'il l'élève en question les a interrompus. Dans Contes de cinéma, il y a également cette gêne à la sortie du cinéma quand l'actrice est accostée par ce type qui lui dit que c'est sa vie. Gêne aussi dans les scènes d'amour, avec une lumière particulièrement crue, et c'est cette crudité et aussi la vérité du cinéma d'Hong Sang-soo. C'est sa cruauté profonde, comme disait Claire Denis, qu'on a entendu tout à l'heure, il y a un côté, une absence de compassion à certains moments, qui fait de ces films des films extrêmement durs, et d'ailleurs ils s'achèvent tous par l'image d'un homme seul qui marche dans la ville. La musique d'Arvo Pärt qu'on entendait tout à l'heure était à la fin de Turning Head et les pas sous la pluie étaient assez significatifs d'un état d'âme qui a atteint toute la ville, parce que c'est pas seulement une solitude individuelle, c'est une solitude moderne, essentielle, au sens où c'est une solitude de groupe, et où on voit les personnages qui sont seuls en train de boire parmi les autres. La lumière rouge, notamment des scènes de beuverie dans Turning Head, les éloigne complètement les uns des autres, ils ont beau se toucher, ils ne s'atteignent pas. Conte de cinéma, donc le dernier film d'Hong Sang-soo, il y a une dureté, une vitesse et une brièveté aussi qui est bien celle du conte, celle d'une fable morale. On remercie tous ceux qui ont participé à ce hors-champ spécial consacré à Hong Sang-soo, tous ceux qui ont participé aux interviews, Julien et Joséphine d'un côté, Marc et Guillaume de l'autre, et puis également les traducteurs, Yoram pour l'anglais, et pour le coréen, Jeong Gyeong-jin. Excusez-moi pour la prononciation. On remercie également MK2, et donc tous les DVD sont disponibles. La femme et l'avenir de l'homme et Turning Head en coffret chez MK2. Et les trois premiers films, Le pouvoir de la province, donc qui est son deuxième, Le jour où le cochon est tombé dans le puits, son premier, et La Vierge mise à nu par ses
des prétendants qui est particulièrement réussi chez TF1 Vidéo en coffret également. Hors champ, c'est fini. On se retrouve prochainement. Cette émission était composée par Martin. On écoute juste un dernier mot, donc Sang-Soo, qui nous parle de son prochain film ou qui ne nous en parle pas puisqu'il est assez mystérieux, comme on peut s'en douter.
No, I'm starting writing.
Je vais commencer à écrire en novembre. Et j'espère tourner au mois d'avril.
Et puis on remercie Hong Sang-Soo, bien sûr, d'avoir navigué entre différentes langues et aller voir Contes de cinéma au cinéma pour que la mise en abîme soit totale. Bonne soirée.
However, the viewpoint is strictly male. They're written by the male, directed by the male, and seen by the male.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.